David Etégui est avec nous. David, comment vas-tu?
Comment ça va, David?
Comment ça va, les gars?
Très bien.
Très bien, très bien. Toi?
Oui, excellent, excellent. Content de vous parler.
Hey David, pour commencer, on a plein de questions pour toi, mais on va parler de ce fameux deuxième joueur de centre. On en a parlé pendant toute la semaine. Quel joueur de centre qu'on va aller chercher pour jouer avec Demidov? D'ailleurs, il y a Kent Hughes qui a fait une entrevue puis qui a dit comme quoi qu'il n'allait pas...
être un marin sous, ouais, un marin ivre.
Il n'allait pas juste jeter de l'argent comme ça, des contrats trop longs de 8 ans pour des joueurs autonomes. Fait que on sait qu'il envisage une transaction. Pour toi, David, comment tu vois Kent Hughes et le Canadien s'approprier ce fameux deuxième joueur de centre qu'on attend tous pour l'an prochain?
Oui, je pense que c'est clair, en tout cas dans mon esprit à moi, personnellement, je pense pour moi, que Kent Hughes, c'est sûr qu'il va faire une transaction où il va bouger pour aller chercher finalement ce fameux deuxième centre tant recherché à Montréal. Et la raison, elle est simple. Les joueurs de l'édition actuelle lui ont donné la confiance de faire ce move-là. Et c'est pour ça que personnellement, je suis tellement heureux. J'aurais bien voulu les voir repêchés dans les 5 derniers, mais la réalité, c'est que je suis tellement heureux de les voir là parce que ça va aider pour des UFA, parce que ça va aider pour la crédibilité de la ville, parce que ça va aider pour le projet, parce que ça va amener les jeunes à être beaucoup mieux, à grandir dans une atmosphère gagnante. Et tout ça, c'est les réponses qu'ils voulaient. Donc moi, personnellement, ce que j'ai fait, personnellement, je me suis dit, bon, j'ai écouté comme vous, comme tu dis, Georges, ce que Kent a dit dernièrement et depuis une semaine ou deux, je pense qu'il est assez transparent. Il faut lui donner le crédit d'avoir fait ça. Mais il parle, on a bien entendu qu'il parle de surpayer. Il n'y a pas de problème à surpayer.
Ouais.
Il parle comme quoi je dois rajouter un attaquant du top 6. Il le dit clairement. Il parle comme quoi il faut qu'il approche des joueurs, il a approché des équipes, des joueurs qui ne sont pas mentionnés. Ça, c'est une clé, là, qu'il donne comme information. J'étais vraiment choqué qu'il ait même partagé cette information. De dire, je cherche, j'ai parlé à des équipes pour des joueurs qui ne sont pas nécessairement sur le marché actuellement, et on va se reparler plus tard. Donc, il pense à l'extérieur de la boîte, et naturellement, je ne veux pas payer des UFA pour une longue période de temps parce que ma fenêtre, elle est ce qu'elle est, et je ne veux pas nécessairement mettre plus d'argent qu'il en faut. Donc, ça, c'est les informations que lui, il a données. Moi, à partir de ça, les amis, ce que j'ai décidé de faire, je me suis dit, je vais faire l'exercice de prendre ces informations, de me mettre à la place de Kent Hughes, de me dire, moi, qu'est-ce que je ferais exactement avec les informations qu'il vient de me donner et dans quelle direction je m'en vais avec l'édition actuelle que j'ai et quelles sont mes priorités et comment j'approche le sujet.
Oh, t'as des noms, David, alors t'as fait une liste.
J'ai plus que des noms, à vrai dire. Je pense que je peux me tromper, OK, mais je pense qu'à l'intérieur des noms que je vais vous donner, et de la manière que je vais vous l'expliquer, je pense qu'on va retrouver le nom de ce fameux joueur de centre à l'intérieur des noms que je vais vous donner à l'heure actuelle. Il devrait être en théorie là.
Bon, les gens sont excités, là. Les gens sont excités, okay. David.
Et j'ai du mal à imaginer que ce soit un autre joueur que ça après l'exercice complet que j'ai pu faire avec ce que j'avais sous la main.
Oh, non, de t'entendre, okay?
Donc, oui. Donc, premièrement, c'est se dire... On veut un joueur, il faut comprendre une affaire. On veut un joueur de centre et on veut un joueur qui va aider Demidov. Donc, automatiquement, ça me prend un joueur qui a quand même de l'expérience de la Ligue nationale, quelqu'un qui est déjà en place. Le premier exercice que j'ai fait, les amis, avant de passer à des noms, ainsi de suite, c'est que j'ai fait un sondage sur toutes mes plateformes. Il y a eu plusieurs milliers de gens qui ont répondu au sondage que j'ai fait parce que je voulais aussi savoir où est-ce que les amateurs des Canadiens, les fans des Canadiens de Montréal, ils sont où dans leur esprit? Qu'est-ce qui vaut la peine? Est-ce qu'ils comprennent le coût relié,
ouais,
à un move comme ça? Alors, on n'est pas sur du PlayStation ou Nintendo. On est dans la vraie vie. Donc, j'ai fait ça en 3 temps. Les gens ne se sont pas rendus compte de ça. J'ai fait mes sondages en 3 temps. En premier temps, j'ai mis « Vous devez aller chercher ce deuxième joueur de centre tant recherché. » Cet été, vous êtes Kent Hughes. Qui vous donnez? Est-ce que vous donnez Ryan Backer? Est-ce que vous donnez Hage et un choix de première ronde? Est-ce que vous donnez Fowler et un choix de première ronde? Et par la suite, j'ai demandé en premier lieu, est-ce que vous donnez vos 2 premiers choix de cette année? genre le choix des Canadiens et de Calgary. Donc le choix à peu près 15 et un choix à peu près 17-18. Exemple. À l'intérieur de 30 minutes, j'avais déjà 70% des répondants qui m'ont dit « Donne les deux premiers choix. Donne le 15 et le 18. » Automatiquement, j'ai effacé le sondage. J'ai compris tout de suite à l'intérieur de 100 votes où la tendance, elle s'en allait. J'ai enlevé ça. J'ai dit « Je vais rendre ça plus compliqué. » Les mêmes trois premiers choix. Et là, je vais rajouter, vous donner en plus Logan Mailloux et un choix de première ronde. Encore là, à 50% des voix à l'intérieur de 100 votes, les gens votaient quasiment tous pour Logan Mailloux et le choix de première ronde de cette année. Donc j'ai compris que pour les partisans de Montréal, c'était facile de se départir des choix de première ronde, c'était facile de se départir de Logan Mailloux.
Ouais, c'est le nom là, qu'on entend dit, tout le temps.
Ça, ouais. C'est ça.
Mailloux, okay. On l'entend tout le temps. Ça, c'est...
Donc là, j'ai dit, je vais rendre ça plus corsé. Et là, je vais laisser les trois que les gens ne veulent pas donner. Et là, on va voir ce que ça va donner. Et là, j'ai eu des milliers de réponses et des commentaires. Des gens qui me disent, finalement, on arrive nez à nez, ou presque à 2% près, que les gens sont autant prêts à donner Reinbacher que de donner H avec un choix de première, le choix de première ronde de cette année. Et on est beaucoup plus réticents à donner Jacob Fowler avec le même choix de première ronde.
David, veux-tu les résultats qu'on a fait dans les 10 dernières minutes?
Oui, vas-y.
Avec le même sondage. Et je vous invite à continuer à voter, OK, sur le YouTube. Quel espoir vous seriez prêt à sacrifier là, pour le deuxième centre avec les choix de premier tour et tout le reste? C'est au-dessus de 700 votes dans les 10 dernières minutes et Reinbacher est à 58%, Michael Hage 33%. Et comme tu dis, Fowler est loin derrière à 9%.
Donc, exactement. Donc, la tendance, on la voit. Reinbacher, les amis, il y a une raison pourquoi j'ai mis ces joueurs-là. C'est pas farfelu ce que j'ai mis. Lorsque j'ai mis Reinbacher, c'est que Reinbacher, forcé d'admettre que pour le moment, on a des doutes. Moi, je me dis, Reinbacher, il est peut-être un gars fragile. Il y a des gars qui sont toujours blessés. Exemple, Kevin Goulet.
Ouais.
Donc, je me dis, Reinbacher, est-ce que c'est un autre Goulet? Il est peut-être même plus fragile que lui. On n'a aucune espèce d'idée. Et de ce qu'on peut comprendre, on est en train de parler d'un ceiling, d'un plafond de troisième défenseur, peut-être deuxième. Donc, c'est ce qu'on est en train de voir. Et c'est ce qui fait que nos auditeurs et les milliers de gens qui ont répondu sur mes plateformes ont dit Reinbacher autant. Hage, c'est pas la même chose. Hage, les gens l'aiment. Mais les gens se disent, si on va chercher un joueur de centre de qualité, un vrai numéro 2, on n'a plus besoin de Hage dans l'équation. Parce que là, automatiquement, des centres numéro 3 et numéro 4, c'est pas ça qui va nous manquer, et des bons en plus. On vient de retenir Evans, on a Owen Beck, on a Kapanen, il n'y a pas de problème. Donc en réalité, et Suzuki ne bouge pas. Donc en réalité, c'est là. C'est la raison pourquoi les gens sont prêts peut-être à se départir de Hage. Pour ce qui est de Fowler, c'est clair que pour les fans des Canadiens de Montréal, on ne peut pas le toucher. Parce qu'après Montembeault, on n'est pas sûr de Daubèche, mais en réalité, on se dit, après Montembeault, une fois qu'il est plus là, on n'en a pas de vedette dans les filets. Alors on se dit, lui, il ne faut pas le toucher. Donc ça, c'est un peu ce que c'est. Maintenant que les gens comprennent ça, les gens à la maison, doivent comprendre que, dans la vraie vie, entre un DG, et moi j'ai eu la chance de parler pendant des années à des DG, en tant qu'agent de la Ligue nationale, et j'ai été impliqué dans des transactions, et je peux vous dire comme quoi, ça n'existe pas une transaction où les deux côtés ne sont pas contents. Et lorsqu'il y a un des deux côtés qui perd la transaction, lorsqu'il a fait la transaction, possiblement que les deux côtés s'attendaient à ce que les deux côtés gagnent. Mais enfin, en bout de ligne, ça ne marche pas pour les deux équipes. Et des fois, oui. Donc, dans ce cas-ci, il faut être prêt à payer. Maintenant, comment est-ce que ça fonctionne? On va arriver un peu au nom. C'est que si je me mets à la place de Ken Hughes, je dois diviser en trois priorités. Quatre réellement, mais trois. C'est-à-dire un premier groupe, un groupe de joueurs, et je me fie à ce qu'il a dit comme information, un groupe de joueurs qui ne sont pas sur le marché, que je peux intégrer dans mon alignement tout de suite, et qui vont faire partie du cœur et du futur pour un minimum de 5, 6, 7, 8 ans dans la formation des Canadiens de Montréal. À l'intérieur de ce groupe-là, on retrouve quatre joueurs. Là, je suis Ken Hughes. Je suis pas en train de dire que les Canadiens vont les avoir, et je suis pas en train de dire que c'est sûr que ça va être fait, là. Mais ce que je suis en train de vous dire, moi je suis Ken Hughes, je prends le téléphone et j'appelle pour quatre joueurs. J'appelle à Saint-Louis pour Robert Thomas, c'est sûr.
Ben ouais.
Et là, je me dis, pas parce que j'aime Robert Thomas, je le pourrais appeler pour McKinnon aussi. OK? Mais je vous parle de quelque chose de réaliste. Saint-Louis, ils sont entre deux. Peut-être qu'ils vont vouloir prendre des décisions. C'est une équipe qui est chaque année toujours dans le mix, mais ils sont plus en haut. Peut-être qu'ils vont vouloir. Le gars a déjà 25-26 ans. Peut-être qu'ils vont dire on peut avoir des assets. C'est une possibilité. J'appelle. On connaît Robert Thomas, 25 ans. C'est un gars dans les face-offs, il est super fort. 56 points en 57 parties. Fantastique.
Ah ouais, puis il est signé en plus. T'sais, mais on entend plus Kyrou et Shem, mais c'est sûr que ce serait une cible.
Il est signé encore 6 ans, 8,125 millions. Deuxième appel, j'appelle pour Mason McTavish. Là, c'est une longue perche.
Ouais.
OK, là, c'est une longue perche, mais je suis prêt à payer, là. Mais McTavish, 22 ans, c'est phénoménal. Il est déjà 50% dans les pay-offs. C'est un gars qui a 220 livres, il est 6 pieds 1, il est capable. Il est incroyable. Pour l'âge où il est, c'est un gars qui joue dans les deux sens, c'est parfait. Je le lance, puis il va être RFA cet été. Je les relance. Troisième appel que je fais, j'appelle Colorado. Je vais vendre Martin Nekash. Martin Nekash, vous venez de l'avoir avec la Caroline. Il reste un autre contrat à 6,5. Est-ce que vous êtes intéressé à avoir des assets? Est-ce que vous voulez peut-être vous renflouer ailleurs? C'est une possibilité, vous avez d'autres joueurs à signer. Je lance une perche. Et le quatrième, j'appelle Lou Lamoriello, puis je demande pour Mathew Barzal.
Ouais.
Puis j'ai dit, est-ce que Mathew Barzal est disponible? Mathew Barzal, il a 27 ans seulement. Je sais qu'il est dans la Ligue depuis longtemps. C'est un gars qui... Bon, au niveau des face-offs, c'est pas sa grande force, il est à 43%. Mais on a Nick Suzuki, on a Evans. Il est capable de s'améliorer un peu. À 45, je peux vivre avec. Mais le gars, c'est un vrai de vrai. C'est un gars qui adore les Canadiens de Montréal depuis son enfance. Mais Mathew Barzal, ça serait quatre joueurs là, que je viens de vous nommer. Là, on ne parle pas du centre numéro un des Canadiens de Montréal. On parle d'un centre numéro deux qui vont être capables d'être là, grandir avec l'équipe, même avec des contrats de 7-8 ans. Il n'y a pas de problème. Ils vont sortir de là à l'âge de 33 ans maximum, dans le plus tard des cas. Donc, leurs meilleures années, de 25 ans jusqu'à l'âge de 33 ans, et dans le cas de Mason McTavish, 22 ans, ils vont être là avec les Canadiens. Et là, tu n'as plus besoin. Je ne dis pas que tu n'as plus besoin, mais là, hey, c'est clair qu'ils rentrent dans une transaction pareille. Sûr. Mais là, tu as au moins ton deuxième centre pour 7 ans. C'est clair. Maintenant, vas-y.
Non, je disais, attends, tu l'as pour un petit bout, oui.
Tu l'as pour un petit bout. Là, la réalité, c'est qu'à l'intérieur de ça, il y a deux joueurs qui sont réalistes. C'est Mathew Barzal et Nekash. C'est eux qui sont réalistes.
Mais Nekash, il joue plus à l'aile, David, par exemple. T'sais, depuis qu'on l'a amené dans la Ligue, est-ce que le Canadien va se rembarquer dans un projet comme ça? T'sais, Barzal, d'après moi, si tu parles à Lou, il y aurait une possibilité. À ce prix-là, les blessures, ce que les Islanders vont faire, ce serait peut-être un candidat vraiment qui serait...
Et t'as tout à fait raison, OK? Malgré que je pense que Nekash pourrait jouer au centre, malgré qu'il n'est pas fort dans les face-offs. Mais c'est certain qu'il est le moins naturel des quatre, disons. Mais si je mettrais 100$ sur une transaction qui est vraiment, vraiment, vraiment possible, c'est vraiment Mathew Barzal.
Ouais.
Et c'est pas parce qu'on en parle depuis deux jours. Et les raisons que tu viens de me donner, c'est exactement ça. Les Islanders, ça s'en va dans un cul-de-sac. Ils n'avancent pas. La relève n'est pas du tout là. Ils viennent de repêcher maintenant, avant les Canadiens, Eisenman. Mais à part ça, il n'y a pas grand-chose.
Tu es allé chercher Callum Ritchie là, au Colorado contre Brock Nelson. Fait que peut-être que tu es prêt à aller chercher d'autres jeunes aussi. Là,
ils veulent. Ils vont devoir. Ils n'auront pas le choix. Et là, Mathew Barzal, toujours blessé souvent. Toujours c'est un grand mot. L'année dernière, 80 points, il n'y a pas de problème. Mais c'est un gars qui joue beaucoup moins. Il y a eu des saisons de 60 parties. Mais le gars... Quel talent alors? Et il a un très gros contrat à 9,1 millions pour encore 6 ans. Donc pour les Canadiens, ça passe. Et advenant que malgré tout, même qu'il te donnerait entre 65 et 75 parties par année, c'est suffisant pour avoir du succès. Un gars comme ça, il est incroyable, Mathew Barzal. Il est patine, il a toutes les affinités pour rentrer dans le système des Canadiens de Montréal. Donc ça, c'est le groupe numéro un. Le plus difficile, coûteux, ça coûte cher à aller chercher, ça coûte cher à aller payer. Ensuite, je me rabats sur la deuxième priorité. La deuxième priorité, c'est quoi? C'est d'aller chercher un deuxième groupe de centres qui sont beaucoup plus raisonnables en termes de prix, mais qui ne vont pas te donner, qui sont un peu plus vieux, mais pas des UFA. Donc, dans ça, pour moi, le premier candidat, c'est Dylan Strome à Washington. Je prends le téléphone, j'appelle Washington. Là, vous allez me dire, mais Washington, c'est au premier au classement général. Oui, mais Washington, là, ils savent très bien que cette année, c'est pas une année normale. Chez Cron, on ne sait pas ce qui va arriver avec lui. Ovechkin, il est après son record. Là, ils ont quelques jeunes qui montent. Moi, je pense que le gars, il a déjà 28 ans, Dylan Strome. Il y a une saison, une carrière, une saison de carrière, 68 points, 67 parties, plus 11, 55% dans les mises en jeu. Il est gros, 6 pieds 3, 200 livres, idéalement pour les Canadiens. Et surtout, il n'a pas de clause de non-échange. Et en plus, il lui reste 3 ans et un contrat de rien que 5 millions par année. Donc ça, c'est le gars que tu peux arriver, surpayer et sortir de ce marché-là. Et depuis 3 ans, il donne 60 à 65 points. Tu le mets là, il est là. Il est capable, il est safe, il est bon dans les mises en jeu, c'est parfait. Ça marche pas avec lui. J'appelle encore Lou, puis là, je demande qu'est-ce que ça coûte pour Bo Horvat. Bo Horvat, il est encore signé pendant 6 ans. Il a 29 ans. On tire là, on est rendu à 35 ans en fin de contrat. Mais il peut te donner quelques bonnes années encore. C'est un gars qui va te donner une cinquantaine de points par saison. 50-55. Il est très, très, très fort dans les mises en jeu. Il est un des meilleurs de la Ligue à quasiment 60% cette année. C'est un gars qui a vécu dans la Ligue. Il est capable. Et je vais plus loin. J'essaye une troisième tentative et j'appelle les Red Wings. Et je demande, qu'est-ce que je fais pour sortir Dylan Larkin de là?
Ouf.
Non, mais et ça, là, vous allez dire...
Là, vous allez dire que c'est impossible.
Ouais.
Moi, je suis pas sûr que c'est impossible, les amis. Là, ce qui se passe à Détroit, ça tourne, ça tourne, ça tourne, et là, ça régresse. On remet en question ce qui se passe avec Steve Yzerman. Si c'était lui, si c'était pas lui, est-ce qu'il serait encore en poste comme DG avec Détroit? L'équipe, elle recule, les jeunes n'avancent pas. L'année dernière, ils étaient en avant des Canadiens, cette année, ils sont en arrière. Il n'y a pas de progression. Et Dylan Larkin, on l'aime tous, mais il a déjà 28 ans. Donc, si jamais, et à part lui, on n'en a pas des, il n'y en a pas 50. Donc, peut-être qu'eux vont dire, ben là, on fait quelque chose, on fait un move, on crée de quoi, on bouge 2-3 spots avec, et puis, venez le prendre, malgré qu'il est signé. On est d'accord qu'il est signé, il y a un no trade clause. Ça va être difficile, mais encore, comme je vous explique, je fais un appel. Ça ne veut pas nécessairement dire que le gars va aboutir entre mes mains.
Non, mais il les a fait, les appels. Il les a fait, il faut qu'il les fasse, puis après, c'est de savoir qu'est-ce qu'on peut bouger. T'sais. C'est pas parce qu'il n'est pas disponible que... T'sais, c'est pour ça que tu as inclus des noms comme Robert Thomas, on pourrait rajouter Marco Rossi là-dedans, on pourrait rajouter...
Je veux pas rentrer dans Rossi. Pourquoi, Stéphane? Enfin, j'ai fait l'exercice de toute la Ligue. En réalité, les Canadiens, là, ça leur prend un gars qui est grand et gros. Ça leur prend un gars qui a du gabarit. Même Larkin, ça a l'air de rien, mais il est 215 livres, 6 pieds 1, là.
Tate Thompson, on en parlait cette semaine avec Georges.
OK, ça prend des joueurs. Ça prend un gars qui te donne au moins 50, 60 points, là, disons, et qui est 6 pieds, 6 pieds 1, 6 pieds 2, 6 pieds 3. Parce que déjà, Suzuki, la ligne de centre, là, Suzuki, c'est pas très gros, là. Evan, c'est pas le plus gros. Et là, même Beck, ça va, c'est correct. Kapanen, c'est correct. Mais c'est pas, on parle pas... Et si on peut rajouter, c'est pour ça que je parlais de Barzell, je parlais surtout de Dylan Strome, des gars qui sont gros, forts, productifs et dans certains cas, forts dans les mises en jeu aussi.
La saga Ivan Nemidov, on en a parlé hier. Il va être laissé de côté. Là, on entend que peut-être qu'on voudrait le renvoyer en MHL si jamais le SKA se fait éliminer pour qu'il puisse rester là-bas quand même jusqu'au 31 mai avec le changement de calendrier en KHL. Écoute, David, c'est tellement important que tu puisses nous parler. J'ai quasiment le goût que tu mettes le chapeau d'agent, le chapeau de dirigeant. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu penses du dossier et comment ça va se dessiner la suite pour la saga Nemidov?
Pour moi, Stéphane, je vois la situation très, très, très claire. Et je prends les informations un peu que tu viens de donner maintenant, qui, comme tu as dit, il doit s'entraîner. C'est la dernière fois, il l'a laissé sur le banc toute la partie. Ça ne marche juste pas. OK, là, il dit qu'il va l'envoyer dans. Il ne va pas le faire jouer parce qu'il a besoin de s'entraîner. On va le renvoyer peut-être dans la MHL. Il ne jouera pas dans les premières parties des séries éliminatoires. Il faut comprendre avec qui on fait affaire, premièrement. Là, on fait affaire avec Roman Rothenberg, les gens qui ne connaissent pas la maison.
Ouais.
C'est une famille de millionnaires. Il est vice-président de l'Association russe de hockey. Il est board of director de la KHL. Il est CEO du SKA. C'est lui qui a fait tout le nouveau marketing de la KHL. Il est proche de Medvedev et il est proche de Poutine. Donc, on ne parle pas de n'importe qui, là. Donc maintenant, on a eu quelque chose de très spécial. On a été capable de voir un peu la discussion entre Kent Hughes, Vincent Lecavalier et Bobrov. et Rothenberg. Vous l'avez sur YouTube, vous êtes capable de voir 30 minutes. On est capable de voir un peu ce qui se dit là-dedans et vous avez toute l'histoire à l'intérieur de ça. Je résume ça en une minute. Ce qu'il fait exactement, c'est que Rothenberg, il dit, premièrement, il faut que le gars soit capable. Si le gars n'est pas capable d'aller dans la Ligue nationale, il n'est pas capable de jouer sur un premier trio, sur du power play, il ne devrait pas partir. Ça, c'est la première affaire qu'il dit. Deuxièmement, il dit qu'il faut collaborer. Et troisièmement, il dit il y a des réserves. Et là, on voit que Ken Hughes et ainsi de suite sont sur la défensive, sont très calmes à l'intérieur de cette discussion. Mais là, il y a quelque chose qui ne corrobore pas. C'est qu'il dit, dans la même discussion avec Ken Hughes et le cavalier Bobrov, il dit, c'est un de nos meilleurs joueurs. Il dit, Demidov, c'est un de nos difference players, un de nos meilleurs joueurs. C'est lui qui fait la différence pour nous. Il est en super bonne condition. Il travaille super fort. Donc, il va à l'inverse de ce qu'il a dit hier. Quand il dit, il ne peut pas jouer en série. Il n'est pas assez costaud. Donc, en réalité, il se contredit. Pourquoi? Parce qu'il revient à son point numéro un. Il essaie de démontrer que Demidov, il n'est pas prêt à faire le saut dans la Ligue nationale. Et c'est pour ça qu'il le fait moins jouer. Et c'est pour ça qu'il dit qu'il n'est pas prêt. Parce qu'il veut démontrer aux Canadiens de Montréal qu'il ne veut pas qu'il parte. Et la réalité, c'est qu'il y a deux possibilités. Ou les Canadiens le sortent de là financièrement. Ils payent le SCA. Ouais. Ils le sortent de là. Ou ils le laissent un ou deux ans de plus là-bas pour faire gagner le SCA comme ce qu'il veut. Donner un peu plus de volume à son équipe. De crédibilité, et par la suite, tu peux venir en Amérique, comme ce qu'il a donné comme exemple pour Panarin. Et là, je ne veux pas faire peur à personne, mais la saga d'Ivan Fedotov, qui a été obligé d'aller à l'armée, OK, et si vous avez un gars qui s'appelle Sergei Krivenko, qui fait partie des ressources des familles pour les soldats en Russie, qui a carrément dit, vous pouvez le lire, il est partout, il dit, les gérants d'équipe de hockey en Russie, là, s'ils décident qu'un joueur va à l'armée, ils n'ont rien qu'un coup de fil à faire. Entre l'âge de 18 et 27 ans, on est obligé de venir le chercher, le joueur. Puis, la même affaire avec Fedotov, il a dû rester 2 ans. 1 an à l'armée, 1 an, il retournait avec le SCA avant de venir. Ça lui a nuit. Je ne suis pas en train de dire que Demidov va aller à l'armée, mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que les Canadiens de Montréal, ils ont un signe. Il leur fait comprendre c'est quoi ces cartes. Pour moi, ils restent ici ou faites quelque chose. Les Canadiens doivent payer et sortir Demidov de là-bas le plus rapidement possible.
On le souhaite, ça c'est sûr, on le souhaite.
Ouais.
David, merci beaucoup encore une fois. C'est pas la dernière fois qu'on va en avoir parlé de Demidov de toute façon, puis c'est pas la dernière fois qu'on va parler du deuxième joueur de centre. J'imagine qu'on aura d'autres listes à faire d'ici au repêchage pour voir les différentes cibles. Merci pour l'exercice et le travail, David. Bonne semaine, bon match
merci,
ce soir.
Merci, bonne semaine à tous.